Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous allons aborder la deuxième série de matière à penser intitulée « De la science-fiction à la science du futur ». Nous prenons appui sur une œuvre cinématographique ou littéraire. Aujourd'hui, nous aurons les deux, je vous dirai pourquoi. Et nous passons à ce qui se fait de mieux, de plus délicat en médecine de nos jours. Aujourd'hui, ce sera « Réparer les vivants », ce film de Kateli Kelevere, que nous allons discuter avec nos invités. Tout d'abord, Louis Guichard, qui est journaliste et critique de cinéma, travaille à Télérama. Nous aurons le plaisir d'écouter Pascal Leprince, qui est professeur de chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'hôpital de la Pitié. Et Daniel Siboni, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Un cœur nouveau » chez Odile Jacob. Daniel Siboni est bien connu de nos auditeurs, puisque j'ai eu le plaisir de le recevoir depuis quelque temps sur sa philosophie, sur son écriture, sur ses réflexions. Nous allons tout de suite commencer par un extrait du film.
On n'a pas vraiment eu le temps de parler ensemble. En fait, je suis là aussi pour vous accompagner par rapport à tout ça.
Tout qu'on regarde comme ça si c'est fini. On attend quoi, là ?
C'est vrai. Dans cette situation, il n'y a pas de raison de maintenir les soins, ni de garder les machines. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. On se trouve dans un cas très particulier. La mort cérébrale est un cas rare. Vous avez pu voir que son cœur et ses organes continuent de fonctionner. Et cette situation nous permet d'envisager un don d'organe. Je veux juste que vous sachiez que si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Si vous en avez envie, il y a peut-être un chemin qu'on peut faire ensemble pour trouver la réponse juste, celle de Simon.
Mais comment il pouvait penser à ça à son âge ?
Je sais pas. Au cours d'une discussion qu'il aurait pu avoir avec vous, avec ses amis, sa façon d'être dans la vie, son rapport au corps.
T'as des gosses, toi ? Non, t'as pas de gosses, t'as rien à foutre ici. Tu comprends ça ? Tu comprends que t'as rien à faire ici ? Hein ?
Je suis désolé, je me suis peut-être mal exprimé. Ça peut vous paraître brutal, c'est vrai. Mais je cherche surtout pas à vous convaincre. Vraiment, croyez-moi, cette décision, elle vous appartient. Totalement.
Mais on sort.
Pardon, mais je dois vous dire quelque chose d'important. Bien sûr, prenez le temps. Seulement, il faut savoir que ce temps est limité, malheureusement. Au bout d'un moment, on pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don.
Tiens,
voilà, donc un extrait, un film, donc « Réparer les vivants », qui est issu du livre de Maëlys de Kerendal. Laquelle, si j'ai bien compris notre aparté avec Pascal Leprince, elle est venue voir chez vous le déroulement opératoire d'une greffe cardiaque que nous allons rediscuter. Daniel Siboni, vous-même, vous avez été voir dans un autre service parisien le système de fonctionnement des greffes et des autres interventions vasculaires. Et vous avez une réflexion.
Surtout parler aux patients.
Et vous avez vu et les patients, et le personnel, et la gestuelle. Ce film, donc, est un film délicat, et qui est, je trouve, très réaliste de ce que nous pouvons vivre. Louis Guichard, vous qui êtes donc critique de cinéma, comment avez-vous analysé la sortie de ce film ?
Mais ce qui singularise ce film, c'est que le personnage principal en est non pas un humain complet, mais une partie d'humain, hein, un cœur. C'est le seul personnage que l'on voit donc, du début à la fin du film. Tandis que les autres personnages se succèdent, hein, qu'ils soient la famille du donneur, un jeune surfeur qui a un accident mortel au début du film, que ce soit les équipes médicales successives, ou la famille de la receveuse, une dame de 55 ans que l'on suit dans la dernière partie du film. Donc le cœur, cet organe, c'est lui le héros du film, le seul à être présent d'un bout à l'autre de l'histoire.
Et en fait, les films sur la greffe cardiaque, il y en a eu une petite efflorescence, hein, je dirais, ces derniers temps. Je sais pas, enfin, je suppose que vous les connaissez. En particulier, je pense à 21 grammes de Iñárritu, qui est remarquable, je trouve, parce que Iñárritu, enfin, moi, j'adore ces puzzles de vie qui se rencontrent à un moment donné de façon inattendue. Et puis,
je pense que c'est une source d'inspiration pour cette jeune cinéaste française, Katel Kilivere, pour cette adaptation de Maëlys Garangal, en effet. Oui.
Et puis, il y a aussi Cette vie qui a été faite avec Gabriel Murcino en 2008. Et puis, encore à partir de L'intrus. D'ailleurs, Daniel Siboni, vous parlez de l'histoire de l'intrus, du témoignage de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe, et qui va faire une réflexion sur sa propre histoire.
Absolument, c'est un... Ouais, avant de commencer cette expérience, donc où j'ai été invité au service à Bichat, à regarder les opérations, à fréquenter les patients, les médecins. J'avais lu quelques petits livres, dont celui-là, dont celui de réparer les humains aussi. Et c'est vrai que Nancy, il a vécu l'expérience, et je trouve que son livre est assez excitant parce que, en fait, il essaye de régler le problème de l'intrus. Il a un intrus dans son corps, et par la dialectique philosophique, il s'en sort admirablement en 2-3 pages. Il dit « Je suis moi-même un intrus pour moi, donc je n'ai plus d'intrus ». Ça paraît drôle, mais c'est un peu son argument.
Est-ce que le poids, malgré tout, de cette confrontation avec l'autre en soi, ne va pas être parfois problématique? Je pense justement à certains films, je me tourne vers vous, Louis Guichard, de films qui traitent justement cette notion de dette qu'il peut y avoir.
Dans le film, c'est très complexe, puisque la receveuse, qui est jouée par Anne Dorval, une grande comédienne québécoise, la receveuse n'est pas sûre de vouloir ce cœur. Elle est malade, elle est fatiguée. Elle demande à son chirurgien, est-ce que au fond la nature n'a pas décidé pour moi? Est-ce que tout simplement c'est pas la fin naturelle? Et donc il y a un conflit entre ce qu'elle croit être la nature et ce que lui répond la science, c'est-à-dire qu'elle a droit à un nouveau cœur et que si elle est fatiguée, si elle n'en a pas envie, c'est précisément parce qu'elle est malade, mais un nouveau cœur lui permettra de revivre et de ne plus être malade. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que elle n'est pas sûre de le vouloir au moment où ça se produit.
Est-ce que, Daniel Siboni, est-ce que vous avez, dans votre pérégrination dans ce service, est-ce que vous avez assisté à ce moment que j'ai choisi au tout début, qui est celle de la première discussion avec la famille qui vient d'apprendre, il y a peu de temps, on en parlait avec le chirurgien, mais qui vient d'apprendre un peu de temps le décès d'un proche, et de l'annonce qui est faite de, un, que l'affaire est malheureusement sans issue, et deuxièmement, qu'il y a une possibilité de don. Est-ce que vous avez pu assister à cela?
Alors, je rebondis juste un instant d'abord sur ce qui a été dit. J'ai écouté toutes sortes de témoignages, de réponses à la question « Alors, comment vous vous sentez avec ce cœur ?» Et une des plus jolies que j'ai entendues, c'est quelqu'un qui me dit « Je sais que mon cœur ne m'appartient pas. » Et j'entendais ça, je me disais, n'importe quel amant est en état d'amour intense pourrait dire, tu as pris mon cœur ne m'appartient pas. Mais sinon, j'en ai entendu qui disait, ah non, ce cœur, vraiment, c'est le mien, et j'ai une pensée de reconnaissance pour la personne, mais c'est vraiment mon cœur. Un autre dit, vous savez, j'y pense pas trop, moi je reviens de loin, je vis. On a toutes sortes, c'est normal, toutes sortes de réactions, puisque c'est le rapport, comme l'a dit René, à la dette, à la culpabilité, à l'autorisation de vie, etc. Quant à l'autre question, non, je n'étais pas en amont du processus, puisque moi j'étais invité à voir les transplantations, les réparations, etc. Et quelque part, en un sens, et cette scène où c'est en amont, on va prélever le cœur, c'est le début de l'opération pour la personne qui est en cours là, qui attend un cœur, mais cette personne est là déjà. C'est pas le début pour elle. Elle a un parcours immense derrière elle, un autre parcours devant. C'est vraiment le moment où ça percute, le bon hasard qui fait qu'il y a un cœur disponible. Mais sinon, les gens, la plupart ont déjà eu on dit un cœur artificiel, c'est pas vrai, mais un ventricule artificiel qui supplée. Mais c'est très impressionnant de voir les gens qui se promenaient avec une ceinture.
Oui,
comme,
ça c'est du
comme
côté
des poseurs de bombes.
C'est du côté de l'attente. Oui. Ce que je voulais, c'était pointer, je trouve, ce moment très difficile de l'annonce d'une part, et surtout de l'annonce de la possibilité donc de prélèvement. Alors là, je me tourne vers Pascal Leprince. Comment est-ce qu'on a évolué dans notre pays par rapport à ce point clé, quoi, qui est la première rencontre, où souvent d'ailleurs, je pense que vous serez d'accord, il y a une agressivité, la première réaction est une agressivité, on le voit bien dans le film, le père d'ailleurs, et Marie en l'occurrence, mais réagit très violemment, et je trouve que souvent dans les annonces de choses difficiles, nous médecins, nous savons qu'il y a une phase d'agressivité.
Nous en tant que chirurgiens, transplanteurs, on a la chance par rapport à ce moment, par rapport donc à ce moment de l'annonce à la famille, du décès et éventuellement du don d'organes, d'être protégé, puisqu'il y a une scission.
Oui, il faut bien expliquer ça.
C'est extrêmement important à savoir. Oui. Il y a des équipes qu'on appelle de prélèvement qui gèrent donc les patients qui sont d'abord pas encore décédés, et puis qui vont décéder, qui vont passer en coma stade 4, donc avec une incapacité, une impossibilité de retour à la vie. Hein, ça, c'est clair, c'est parfaitement établi. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle des coordinations de transplantation vont discuter avec la famille, vont faire les examens nécessaires pour s'assurer que le patient est bien en stade 4, etc. Ça, ce sont des équipes complètement séparées des équipes de transplantation. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre les équipes, potentiel conflit d'intérêt entre les équipes de transplantation d'un côté et l'équipe qui va s'occuper, donner des soins à la personne qui sera potentiellement
même si
donneur.
Ça se passe dans le même établissement.
Même si ça se passe dans le même établissement, on prend la Pitié-Salpêtrière, on a une équipe de coordination qui va gérer les potentiels donneurs, et parfois même les dons de cœur ne vont pas forcément aller à un patient de la Pitié, puisque maintenant il y a une répartition avec des systèmes de score.
Oui, ça, on va y revenir, c'est important qu'on comprenne bien qu'il y a une volonté de démocratisation, au sens, enfin, en tout cas d'égalité.
De plus d'efficience, il faut qu'entre guillemets, le terme n'est pas beau, il faut qu'il y ait un certain rendement, il faut que le greffon serve le mieux possible l'être humain. Mais moi, dans ce qui a été dit ce matin, il y a quelque chose qui vraiment me touche et m'impressionne dans ma vie de tous les jours de chirurgien cardiaque, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, c'est que les êtres humains sont les héros de la vie. C'est extraordinaire, quoi. Le passage, moi ça me donne la chair de poule quand j'entends le passage de la discussion de cet infirmier, coordinateur justement, c'est lui qui fait le job à ce moment-là, l'infirmier coordinateur, et de la famille. La famille et l'infirmier, les deux sont des héros. Lui, c'est pas facile comme annonce à faire et de se prendre l'agressivité initiale et quand même essayer d'amener les gens à comprendre ce que c'est que la mort, etc. Et puis derrière, cette personne qui attend la transplantation, faut voir les efforts que certaines personnes font pour vivre. Et on vit pas pour soi, en général, c'est pour sa famille qu'on vit. Donc, tous ces gens-là sont des héros. Alors oui, les équipes de soignants sont les héros aussi de tout ça, mais c'est vraiment l'être humain qui est au centre de tout ça. Et je crois que la transplantation, et notamment la transplantation cardiaque, parce que quand on enlève le cœur, on meurt immédiatement, à moins de mettre de fait un ventricule artificiel, exacerbe un petit peu cette notion-là de comportement héroïque de l'être humain de façon globale. Parce qu'en chirurgie cardiaque, on voit dans des chirurgies qui ne sont pas la transplantation, des gens qui vont se battre pour vivre et qu'on va sortir parce que les réanimateurs vont se battre, parce que les chirurgiens vont se battre, parce que tout le monde va se battre pour sortir vivant. Ça, c'est extraordinaire.
Louis Guichard, dans le film, à un moment donné, après justement cet entretien et après le temps de réflexion qui est donné, parce qu'il ne force pas, hein, il fait bien son discours, je trouve, mais bon, c'est sûr que la famille a une certaine pression morale d'un seul coup qui lui tombe dessus. Elle s'attendait à rien, mais il y a celle-là. On voit à un moment donné le chirurgien qui croise justement l'infirmier qui vient d'annoncer et qui lui dit c'est bon, ils ont réfléchi et ils sont d'accord. Et là, il se tape sur la main.
Ça... Alors, c'est une interaction qui apparemment ne peut exister dans la réalité. C'est bien ça oui. Voilà.
Normalement, cette interaction-là, elle peut exister avec quelqu'un d'autre que le chirurgien, finalement. C'est-à-dire que finalement, on voit bien que dedans, il y a un certain contentement d'avoir bien fait le travail. Tout simplement, je crois que les gens sont heureux qu'on amène à l'acceptation. Oui, puis... Parce que c'est l'acceptation de la mort, quand même, dont on est en train de parler. C'est quelque chose d'important.
Mais oui. Et je veux dire, dans ce film, je trouve qu'il a, enfin, ce thème est dur. On se dit, oh, est-ce que je vais regarder ce film, hein, parce que quand même, justement, parce que c'est la mort, c'est l'histoire, comme ça. Et je trouve qu'il a une très belle finesse, non seulement d'image, mais je dirais la façon de traiter des allusions au comportement intime.
Ah, il est aussi très romanesque, puisque en fait c'est un adolescent donc de 17 ans, un surfeur,
beau gosse,
qui meurt au début, et il est amoureux, et c'est donc un cœur d'amoureux qui va être transplanté. Ce qui est intéressant dans l'apport de la cinéaste par rapport au roman, c'est qu'elle a développé donc le personnage de la receveuse, cette dame qui est une mère, et on voit que ses fils cherchent à la convaincre de faire cette opération, alors qu'elle est fatiguée, qu'elle ne sait plus si elle le veut. Et au fond, ce qui va déclencher, en dernière analyse, son envie de vivre, c'est qu'elle a laissé une relation amoureuse un peu en stand-by à cause de la maladie et que elle est susceptible de la reprendre. C'est une relation amoureuse avec une autre femme. Et au fond, ce cœur d'amoureux va servir aussi à ça, en fait, à faire vivre à la receveuse une vie d'amoureuse. Et la cinéaste...
Relancer l'amour.
Voilà. Et la cinéaste pense que être mère ne suffit pas à donner envie de vivre, surtout quand les enfants sont grands, et que ce qu'il faut, c'est une histoire d'amour qui attend la guérison.
Voilà. Ils sont tous beaux, hein. Ils sont tous beaux. Tous les gosses sont beaux. La femme, elle dégage beaucoup, je trouve, hein, beaucoup, beaucoup de choses. Les deux femmes, d'ailleurs, dégagent beaucoup. La musicienne également. Enfin, on est pris dans la mer. D'ailleurs, oui, il y a une image que je trouve assez géniale. C'est avant l'accident, là, quand il s'endort en conduisant et que de la route se transforme dans la mer. Ils viennent tous les trois de faire du surf, hein, donc ils étaient sur l'océan. Et d'un seul coup, la route se transforme en mer. Et d'un seul coup, il y a une énorme vague, une espèce de tsunami qui arrive. Et c'est le clash. Et ça, je trouve que c'est joli comme chose. Donc, nous sommes confrontés aussi à des gens de l'autre côté, comme cette jeune mère, en attente. Comment, Daniel Siboni, vous avez vu donc des patients en attente? Et ce moment-là de l'attente, là aussi, bien sûr, qu'il y a des façons diverses de le vivre, hein, c'est évident.
Je crois que avec la technique, on vit des moments qui sont des moments humains, mais qui étaient impensables autrefois. Sans la technique. Autrefois, il n'y avait pas cette scène où, on va dire, alors, est-ce que vous voulez bien qu'on prenne le cœur de votre fils ? Ça n'existe pas. Et pourtant, tous ces moments ont un sens humain très simple. Par exemple, ce moment, je reviens dessus, le deuil que les parents de ce jeune homme ont à faire, c'est le deuil que n'importe qui a une relation amoureuse forte doit faire quand il perd l'objet. Et curieusement, c'est un deuil de l'image, et non pas d'une chose qu'il possède. Il doit faire le deuil, les parents doivent faire le deuil de l'image qu'ils avaient, qui était investie par eux, comme celle d'un vivant. C'est-à-dire que vraiment, c'est un décollement de l'image par rapport à la chose, par rapport au corps. Et pareil, pour ceux qui attendent, et ça n'existait pas avant, j'attends qu'on me rende la vie, et ça va venir si j'ai de la chance. Et pourtant, ce moment, il a une réalité dans la vie courante, dans la vie de tout le monde. Et si on peut le penser, voilà, vous allez connaître un moment où votre vie va être relancée. Ah bon ? où il est ce moment magique. Ben, les types dans le service, ils le vivent. Et ce qui m'a frappé la première fois, c'est la différence des regards. Je reconnaissais tout de suite ceux qui attendaient en vain et ceux dont l'attente allait être récompensée, si je puis dire. Ceux qui, dont l'attente n'était plus un espoir, était vraiment imminente dans sa réalisation. Et ça, c'est la magie où le regard des gens qui viennent d'être opérés, qui peuvent être grabataires pendant un ou deux jours, mais leur regard dit qu'ils rencontrent la vie pour la première fois à nouveau. Et c'est très impressionnant. Je l'ai senti aussi dans la visite, quand on fait cette visite
rapide
de deux minutes, hein, au pas de course.
Pas de course, parce
qu'il y a 25 patients.
C'est comme
voir.
Ça aussi chez vous.
Et on court et on pourrait se dire, ah ben c'est trop court et c'est deux minutes. Mais en fait, c'est deux minutes où il y a un échange extraordinaire entre le chirurgien et le patient.
Mais le patient attend pendant 24 heures, il attend ces deux minutes.
Hein. Voilà, ces deux minutes où ils étaient tous les deux de part et d'autre de la mort. Et là, ils peuvent se serrer la main par parole interposée. Et si le patient a le malheur de geindre un peu, alors ça va, ça va. Mais si il module, tout de suite la réponse, vous savez d'où vous venez. Ça veut dire, bon, c'est vrai, je reviens de la mort. Donc, il y a, j'ai rarement vu un moment d'une intensité et d'une justesse, et en même temps d'une brutalité toute simple. Voilà, le cuisinier vient voir ceux qui ont mangé le plat. Alors, c'était bon, oui, ça va.
France Culture, matière à penser, René Friedman. Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us. Was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, and all the tall short people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people.
Voilà, vous êtes sur France Culture, dans Matière à penser, cette émission qui aujourd'hui traite des œuvres cinématographiques ou littéraires et en science-fiction, et puis la réalité qui est une autre science, celle du futur, réparer les vivants et le thème de la greffe cardiaque que nous venons d'aborder avec nos invités Daniel Siboni, Pascal Leprince et Louis Guichard, chacun spécialiste dans son domaine de philosophie, de chirurgie et de critique de cinéma. Je me tourne vers Pascal Leprince. Et par rapport au métier donc que vous faites, l'évolution qui a été celle de la greffe cardiaque, ça fait pas si longtemps que cela, hein, je dirais. Et puis les premières ont survécu pendant une heure, deux heures. Celle de Barnard, le premier, mais même celle qui était à la Pitié, là où vous travaillez, qui a été la première tentative donc par le professeur Cabrol, qui était votre ancêtre, maître, on va dire. Il y a deux questions à vous poser. Je reviens sur les gens qui sont en attente, avant de l'intervention. Il y a des moyens palliatifs, parce qu'on n'arrive pas à répondre à tous les besoins, soyons clairs. Il n'y a pas suffisamment de cœurs disponibles. Et donc, il y a des solutions palliatives que vous pouvez proposer en attente.
Oui. Lorsque les médicaments ont fait beaucoup de progrès quand même.
Ouais, des nouveaux.
De nouveaux médicaments. Il y en a encore un qui est arrivé il y a quelques années
sur le marché.
Par rapport à l'insuffisance cardiaque.
Par rapport à la contraction du
muscle. On améliore la qualité de vie des patients en insuffisance cardiaque et on prolonge un petit peu, on retarde un petit peu le moment où ils vont avoir besoin finalement d'une transplantation. Donc ça marche pas mal. Et puis il y a des moments où ça marche plus. Quand ça marche plus, soit c'est de façon extrêmement aiguë, brutale, mais ça peut être aussi un infarctus aigu, où on n'est pas insuffisant cardiaque et le lendemain, on est insuffisant cardiaque sévère. Là, on a ce qu'on appelle des pompes provisoires qui permettent d'assurer la circulation des patients, même vigile, hein, sans forcément être endormi, sans forcément être intubé, mais même vigile, des pompes qui assurent la circulation du patient, qui lui permettent d'attendre éventuellement la transplantation cardiaque, si on peut aller assez rapidement, ou éventuellement, justement, l'utilisation d'autres systèmes de machines, d'autres systèmes de pompes qui vont permettre de pallier à l'insuffisance cardiaque de façon plus prolongée. Ces pompes, on les utilise là encore depuis les années 80, quand on regarde quand même, ça commence à dater un petit peu, sauf qu'il y a eu une vraie révolution dans les années 2000 avec des pompes qu'on appelle à débit continu, c'est-à-dire des pompes un peu d'aquarium, un peu plus sophistiquées tout simplement. Et ces pompes qui assurent essentiellement le fonctionnement du ventricule gauche, bien se rappeler de ça, quand on a une dysfonction des deux ventricules, on passera plutôt sur un cœur artificiel. Par contre, quand on a une dysfonction du ventricule gauche isolé, on peut utiliser ces pompes. Et ces pompes sont implantées de façon chirurgicale, mais ce n'est pas de la chirurgie très complexe. Et ça permet aux patients d'attendre la transplantation dans des bonnes conditions, à la fois de survie, de retourner à la maison, mais des bonnes conditions aussi de qualité de vie. C'est ça qui est extrêmement important. Ces pompes, on peut les laisser en place pendant plusieurs années. Et on a même des patients maintenant qui sont implantés, ce qu'on appelle de façon définitive. Donc des patients qui ne sont plus candidats à la transplantation, notamment du fait de leur âge. Et ceux-là, on va les implanter de façon définitive.
On a une limite d'âge pour la transplantation ?
Il n'y a pas de limite légale, c'est du cas par cas. À la pitié, on arrive à transplanter des patients jusqu'à 70, 71, 72 ans. On est très vigilant lorsqu'on augmente en âge parce qu'on sait que les résultats sont un peu moins bons. Et comme il n'y a pas des greffons cardiaques pour tout le monde, là encore, on a un souci aussi d'utilité du greffon.
Et donc, ces palliatifs, ces valves palliatives, sont en train de se développer avec des nouveautés, miniaturisations.
Les nouveautés, donc on les a vécues dans les années 2000, on n'a malheureusement pas des nouveautés toutes les décennies.
Bien sûr.
La nouveauté, c'est quand même le cœur artificiel Carmat qui vient compléter le cœur artificiel qu'on utilise depuis les années 80 quand même. On a un cœur artificiel pneumatique, un peu rustique, mais qui marche très bien, qui est le Syncardia. Carmat arrive maintenant avec une technologie, une évolution technologique majeure. La première expérience en France était plutôt positive, à mon avis, même si on n'a pas vu des survies prolongées à 2-3 ans. Mais il faut se rappeler qu'on a affaire à des patients extrêmement sévères. Les implantations qui ont été faites à la fois en Tchéquie et au Kazakhstan, il ne faut pas considérer le Kazakhstan comme un pays sous-développé.
Hein.
Ils
ont
un énorme programme de transplantation et d'assistance circulatoire avec des gens qui sont très très bons.
Ouais.
Et donc, ils ont eu des résultats intéressants. Maintenant, Carmat va continuer à essayer d'augmenter le nombre d'implantations. Bon, ça passe par les autorités de régulation, etc. Tout ça, c'est extrêmement complexe d'un point de vue bureaucratique aussi.
Mais sur le cœur artificiel, donc complètement artificiel, hein, implanté, il y a eu à un moment donné un doute. Est-ce que c'était parce qu'il y avait des défauts techniques ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une impossibilité d'intégration du matériel ? Est-ce que vous êtes confiant sur le développement ? Bien sûr qu'on va avoir des essais, mais quel est pour vous, comment vous sentez l'avenir ?
Non, je crois qu'il faut rester confiant. Il y a eu deux défauts techniques qui sont des défauts techniques qui sont minimes. Hein. Il y en a un, c'était un petit trou dans une membrane de 10 ou 12 microns. Mmh. Voilà le défaut technique, mais c'est un défaut technique. Un deuxième est un problème sur un composant électronique. Donc bien sûr, comme vous le savez, à chaque fois, la compagnie revoit ses process de fabrication, revoit ses process de sélection du matériel pour arriver à des produits de très très haute qualité. Donc oui, on peut être confiant. Depuis, il n'y a plus de problèmes techniques sur la totalité des implantations, même si ce ne sont pas des centaines et des centaines, avec des patients, notamment au Kazakhstan, les trois patients ont pu être transplantés après une certaine durée sous cœur artificiel.
Mais vous pensez que le cœur artificiel pourra remplacer complètement, c'est-à-dire ne pas être uniquement une situation d'attente, mais voilà, on pourra vivre des années avec un cœur artificiel ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, on voit bien
on
même
est
les
dans
patients.
Une situation d'attente.
Ouais, on est en situation d'attente, et les patients nous le disent. Les patients qui passent par les deux, le cœur artificiel ou même des choses plus conviviales comme les pompes monoventriculaires gauche, qui sont plus conviviales. On a un cap percutané, une batterie, donc ça c'est facile à gérer. une fois qu'ils sont transplantés, quand même, ils nous disent, bah oui, c'est quand même mieux la transplantation et de prendre des médicaments. Sauf que la transplantation, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution. La xénotransplantation, la transplantation à partir de cœurs d'animaux, on voit bien que pour l'instant, ça stagne en termes de recherche. Par contre, la technologie continue.
Qu'est-ce qui a été fait? De quels animaux ont été tentés?
Le plus souvent, ce sont des cœurs de cochons. On a eu aussi des cœurs de babouins. On a découvert plein de choses en étudiant la xénotransplantation, notamment au niveau de l'immunologie. Mais on voit bien qu'on se heurte encore à certaines barrières immunologiques. Même s'il y a eu deux nouveaux progrès récents qui ont été faits, on se heurte quand même encore à une certaine barrière immunologique. Donc je crois que ça ne serait pas pour demain, alors que les évolutions technologiques, on le voit bien, c'est quand même un petit peu tous les jours. Donc probablement, on va voir encore une amélioration. On a des nouvelles pompes, je pense, qui viendront sur le marché dans les 4-5 ans à venir.
Et est-ce que vous pensez les uns les autres que... on fait suffisamment d'informations pour favoriser la prise de position, puisque c'est ça qu'on demande. Enfin, on a eu une affaire assez triste dernièrement, qui a duré, savoir la position de chacun. Est-ce que vous avez signifié quelle serait votre attitude, les uns les autres, vous qui êtes jeunes, si quelque chose vous arrivait?
Moi, je compte le faire et je trouve qu'effectivement, le film présente une situation où ça n'a pas été dit et donc les proches sont dans le doute et l'effroi, alors que si le garçon avait donné des directives, tout serait plus simple.
Oui, il pose la question d'ailleurs. Hein. Bon, c'est vrai qu'il a 17 ans, mais voilà, à quel âge on peut... on réfléchit là-dessus.
Dès qu'on est en état de donner un organe, hein, je sais pas quel est le...
Non, bien sûr, mais en fait, dans la vraie vie, c'est voilà, c'est dit. Donc effectivement, Daniel Siboni,
écoutez,
est-ce que vous donneriez votre cœur?
cette discussion par rapport à l'expérience et à la réflexion sur un cœur nouveau me paraît un peu surréaliste, parce que moi je parle pas de l'acte de transplanter, etc., de chercher.
Non, moi non plus, je parle de la volonté.
Oui, de la volonté, c'est encore plus en amont. Moi, je parle du rapport de l'homme à la technique que vous venez d'évoquer. Je parle des rapports du corps et de l'âme tel qu'il apparaît à travers l'expérience de ces patients. Ce sont les questions qui m'ont intéressé. Quant à savoir, est-ce que j'ai des directives à donner pour qu'on traite mon corps? Pour l'instant, ça n'a pas effleuré ma réflexion.
Mais après cette émission, je suppose que, j'espère, que pas mal de gens vont réfléchir de votre côté.
Ah ben moi, les choses sont claires, je ne pourrais pas dire le contraire, mais je crois qu'en termes de prosélytisme, les choses sont bien faites. L'Agence de la biomédecine fait bien les choses en termes de messages. Et juste pour rappeler quand même qu'il y a tous les ans la course du cœur, organisée par Transform, à Paris-Lézard, 4 jours, 4 nuits, avec des coureurs. Moi, je l'ai fait une année, on se fait un petit peu mal aux jambes quand même. Mais surtout, à côté de ça, une caravane avec des acteurs extraordinaires qui passent dans les écoles et qui explique le don d'organes aux enfants. Et ça, c'est un moment magique.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des pays qui ont fait plus que nous? Je pense en particulier à l'Espagne, parce qu'on a le sentiment que le don d'organes, en général, je ne parle pas que du cœur, mais le principe du don d'organes s'est diffusé étonnamment. Alors, peut-être que les films, là aussi, d'Almodovar, ils sont pour quelque chose. Non, je ne sais pas si, ce que vous en pensez, Louis Guichard, mais...
Sans doute. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que on voit dans le film que la compatibilité, finalement, c'est une toute autre logique que la justice ou la bien-pensance, puisque au fond, ça n'est ni une question d'âge, ni de couleur de peau, ni de classe sociale. Et là, dans le film, c'est quand même un adolescent de 17 ans qui symboliquement se sacrifie, même s'il n'en a pas fait le choix, pour une dame de 55 ans. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec, je trouve, le don d'organes, c'est que ça se fait à l'aveugle et au fond, il y a une forme d'égalité et d'équité supérieure dans cette logique.
D'ailleurs, on voit dans le film la scène du centre de distribution, on va dire, qui est en attente, qui peut donner. Il y a un grand tableau et on essaie de voir ce qui peut coller au mieux par rapport à l'indication et à l'urgence. C'est difficile. Sentiment quand même que parfois, Pascal Le Prince, quand il n'y a pas de cœur à donner, que vous voyez les gens dépérir.
Ouais, ça c'est des moments difficiles qu'on vit là encore avec les patients. On a des moyens alternatifs, on en a parlé juste avant, donc c'est le tout, c'est de ne pas rater le cap. C'est-à-dire attendre, attendre, et permanent se dire, on a trop attendu, là, c'est bon, il faut passer à autre chose. Ça, c'est vraiment, et là, il faut une équipe, il faut vraiment une discussion d'équipe qui réunit la totalité, les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, les infirmières, pour dire, là, c'est le bon moment, on va avoir une perte de chance si on continue à attendre. Et ça, on l'explique, on essaye d'amener les patients à la compréhension de tout ça pour passer plutôt, dans ces cas-là, l'implantation d'une assistance circulatoire, en leur disant, bah, secondairement, on vous amènera à la transplantation dans des meilleures conditions.
Et ça veut dire qu'en dehors du temps opératoire que vous allez d'ailleurs développer en nous quittant, vous avez aussi pas mal de temps de réunions pluridisciplinaires pour essayer de vous calquer ou à la meilleure proposition. Alors, à faire.
Il y a la réunion multidisciplinaire, il y a la réunion de couloir, qui est pas mauvaise, qui est assez efficiente. Et puis surtout, il y a le moment le plus important, en tout cas pour moi, c'est la discussion avec les patients dans les chambres. On en parlait tout à l'heure, Daniel en parlait tout à l'heure. C'est un moment magique, pas pour les patients, pour le chirurgien. De passer dans la chambre et de discuter avec et de voir un peu le retour. Nous, on a notre salaire pour la journée.
Et ce que j'ai découvert, c'est que quand on repasse après, parce que ça c'est une discussion essentiellement technique quand même, quand je suis repassé et que j'ai eu de vrais entretiens avec les patients, ben, j'en témoigne dans le livre, ils racontent tout autre chose. C'est-à-dire qu'ils parlent vraiment de leur rapport à leur cœur, et c'est ça qui m'a passionné. C'est pas la tuyauterie, les branchements, etc. Voilà.
Daniel Sivigny, dans votre livre, vous avez une réflexion toujours sur le rapport entre le corps et l'âme. C'est cette notion très bizarre. Hein. On a pensé à un moment donné que la pensée était dans le cœur. Enfin, c'était dans l'Antiquité. Mais il reste quand même une relation particulière entre cœur et cerveau. Et cette notion de, voilà, que fait mon cerveau quand mon cœur ne bat plus?
Voilà. Eh bien, figurez-vous...
Quand il ne bat plus, mais que par contre, excusez-moi, je termine ma phrase pour qu'on se comprenne, mais que la circulation sanguine continue, qu'il y a une circulation extracorporelle, mais le cœur n'est plus là.
Ben, justement, une des choses que j'ai apprises, c'est que, bien sûr, le cœur est essentiel, vital, etc. C'est la pompe, tout ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est ce que j'appelle l'arbre de vie, c'est-à-dire l'arbre du sang. C'est-à-dire, nous sommes un cerveau branché sur un arbre sanguin qui irrigue le corps, qui se nourrit du corps parce qu'il faut, et qui a une terminaison sanguine du côté du sexe. Mais c'est vraiment cet arbre qui est l'essentiel, et le cœur est au service de cet arbre. Et j'ai eu récemment une belle surprise. J'ai été voir une expo d'art contemporain d'une artiste qui s'appelle Prune Nourrie.
Ah oui.
Qui a mis en œuvre, enfin qui a fait des œuvres, parce qu'elle a eu un cancer du sein, beaucoup de problèmes. Et elle a fait des œuvres où elle montre l'intérieur du corps. Et une de ses œuvres, c'est l'arbre de sang. Or, si l'essentiel, c'est le sang, d'ailleurs, la Bible ne dit pas le cœur c'est la vie, elle dit le sang c'est la vie. Donc si l'essentiel c'est le sang, à ce moment-là, on peut comprendre que le cœur n'est pas là uniquement pour les battements, pour assurer la pulsation, que la fonction majeure du cœur, c'est l'impulsion, c'est-à-dire la pulsation irrégulière liée à l'émotion et à la pensée. Et c'est là que le rapport entre l'âme et le corps sont d'une étroitesse fantastique, parce que je pense, moi, que quand vous avez une pensée, c'est une petite émotion, donc elle appelle le sang à donner plus, donc le cœur à s'émouvoir, vous voyez? Et donc, on arrive à cette conclusion que c'est même ce qui me fait douter qu'il y aurait un jour un cœur artificiel total, parce que la question des irrégularités, elle est cruciale et elle est très difficile à gérer.
La grosse différence, c'est que si on avait un cœur artificiel et une grande émotion, un choc, on va dire, le cœur vacille normalement, le cœur artificiel robotique,
il ne saura pas quoi faire.
Donc il va mal coordonner là-haut.
Même si on lui apprend, si vous voulez, ce qu'il y a de magnifique, ce sont nos troubles avec le sang qui sont les garants de notre vie. Et ça, ça a été une quand j'ai compris ça, j'ai été vraiment ému. L'autre chose qui m'a vraiment impressionné, c'est l'absence de parole. Je m'explique. Imaginez quelqu'un qui a des stress, qui a un mode de vie, bon, peu importe, qui l'amène à des difficultés de cœur. Eh bien, il va chez le cardiologue, qui lui donne des médicaments. Si ça ne va pas, il se retrouve en chirurgie. On le soigne et il retourne chez le cardiologue. Et quand j'ai demandé à l'interne, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné avec tous ces patients que vous recevez, il m'a dit, ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils meurent d'envie de parler et je n'ai pas de temps pour les écouter. Alors je lui ai dit, mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai un pool de jeunes psychothérapeute qui piaffe d'impatience, d'écouter, d'aider, etc. Il me dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'est le cardiologue qui doit les envoyer. Or, le cardiologue, il n'a pas de raison de les envoyer, ou très rarement, parler, etc. Puisqu'il répond par les médicaments et par les soins. Donc, l'absence de parole autour de ces choses-là m'a impressionné. Et il se peut que si on donne tant d'importance à la scène du prélèvement du cœur, c'est parce que c'est peut-être la scène rare où il y a de la parole et où des gens se dévouent pour parler à des endeuillés et pour accepter que leur parole soit inadéquate systématiquement jusqu'à ce qu'elle passe. Et ça, c'est un symbole.
Daniel Siboni, dans ses paroles, il y a aussi les écrits, votre écrit en particulier, Un cœur nouveau, où vous citez beaucoup de phrases que l'on prononce dans la vie de façon courante et qu'on ne mesure pas forcément l'impact, le mal de cœur, j'ai le cœur déchiré, à contre-cœur, le cœur plein, enfin voilà, apprendre par cœur, il y a des terminologies qui sont très très présentes hein, dans notre investissement du symbole quand même.
J'ai été un peu nourri par mon livre de cœur qui est la Bible et qui parle beaucoup du cœur. Et une des conclusions du livre, c'est que ce qui fatigue le cœur, c'est pas les épreuves, les émotions, etc. C'est le contre-cœur. C'est de faire des choses à contre-cœur et qui ne vous sont même pas toujours imposées.
Alors, vous avez tendu la perche, on va citer le livre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un nouveau souffle, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà, donc il y a toujours dans cet organe une symbolique qui n'a pas fini de nous dépasser et qui aboutit à des œuvres. Hein, c'est comme celle que vous venez de nous parler, Louis Guichard, ce film, avec tous les autres qui traitent toujours du même sujet, de renouveau, de la renaissance, de la vie, après un passage parfois à vide, en tous les cas loin de l'impulsion, comme le disait Daniel Siboni. Merci à tous les trois de cette approche. France Culture, Matière à penser, la série de science-fiction Sciences du futur autour du cœur, de la greffe cardiaque. Daniel Siboni, Pascal Leprince, Louis Guichard nous ont aidés à meubler et à remplir de sang frais cette émission, mais elle a été rendue possible grâce aux pompes exerçantes leurs activités de Catherine Donnet, de Sandrine Chaperon, de Dany Journon, de Justine Ville et de Marie Le Peintre. Je donne rendez-vous demain où nous poursuivons, mais je ne vous dis pas le sujet pour que vous soyez présents.